EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est remplie de mystères, mais l'Esprit de Dieu nous aide à le comprendre parce que dans la parole se trouve l'explication de la parole. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie de disciple de Jésus-Christ au quotidien. On a commencé à découvrir comment comprendre, en fait, et interpréter les paraboles, et en particulier les paraboles de Jésus-Christ. On a donné quatre premiers principes qui peuvent nous aider lorsqu'on est en face d'un texte de parabole pour mieux le comprendre. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec trois autres principes qui concernent toujours la compréhension, l'interprétation des paraboles. Alors, donc, on y va. Let's teach. Grandissons ensemble. Avant d'avancer sur ça, laissez-moi vous rappeler quand même un certain nombre de choses. C'est au sujet des types des paraboles de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ parlait en parabole, il avait des types de paraboles qu'on peut catégoriser en quatre ici. Jésus avait des paraboles qu'on appelait des paraboles d'histoire simple. Par exemple, dans le texte de Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Des paraboles d'histoire simple. C'est-à-dire qu'il raconte juste une courte histoire, rapidement, simple, et ça passe. Mais Jésus avait aussi des types de paraboles qu'on appelle ici des paraboles des histoires complexes. Une histoire un peu plus, où il y a plus de personnages, où il se déroule beaucoup plus d'événements à l'intérieur. Jésus avait aussi ces types de paraboles. Troisièmement, il avait aussi des paraboles qu'on appellerait ici des paraboles d'histoires contrastées. C'est-à-dire, comme dans Luc chapitre 16, il raconte une histoire pour pouvoir montrer l'inverse. Vous voyez? Une histoire pour laquelle il met son opposé. Et en fin de compte, il avait ce qu'on appelle des paraboles typologiques ou des paraboles allégoriques. Donc, c'est des images, derrière ces images, qui sont des images du fait du quotidien, mais il explique quelque chose de plus élevé que cela, comme l'histoire de la parabole de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Alors, si on veut comprendre une parabole de Jésus, on a déjà dit ensemble, gardez ça simple, le contexte immédiat, tenez compte du contexte historique, c'est là que j'ai fini hier. Aujourd'hui, je voudrais qu'on continue le cinquième point, donc le premier point d'aujourd'hui, cinquième point. Vous voulez interpréter très bien et comprendre une parabole, identifiez les buts du livre dans sa globalité, et le contexte littéraire plus large. Non seulement qu'il fallait comprendre le contexte immédiat, donc à qui Jésus parlait, pourquoi il parlait de ça, il fallait comprendre le contexte ici historique ou culturel derrière le texte, mais vous devez aussi comprendre le contexte de tout le livre, un contexte un peu plus global. Je ne dis pas toujours tout le livre, mais peut-être que vous êtes dans, ça apparaît quelque part dans Matthieu chapitre 13, mais chapitre 12 est lié à 13 et chapitre 14 est lié à 13. Il est bon d'élargir le contexte, de regarder peut-être cette parabole se trouve dans Jean. Le but de l'écriture du livre de Jean est très différent du but de l'écriture du livre de Luc, qui est très différent du but de l'écriture du livre de Marc, qui est aussi très différent du but de l'écriture du livre de Matthieu. Le contexte général de cet évangile-là, l'objectif que l'auteur poursuit en mettant ses arguments dans les textes va vous guider aussi dans l'interprétation de cette parabole. Quand Jean essaye dans tout ce qu'il est en train d'écrire, Jean essaie de nous dire une seule chose, il veut nous montrer que Jésus-Christ est réellement le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir. Alors, important de pouvoir penser à ça. Et quand vous regardez donc un texte, posez-vous la question, le livre dans lequel je me trouve parle de quoi? Relisons notre texte que nous lisons bien beaucoup ces derniers temps, celui de Matthieu chapitre 13, qui parle de la parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, verset, je vais lire 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Ça, ce n'est plus parabole du semeur, de la semence, celui qui sème le semeur. Mais regardez ce que ça devient maintenant. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées ?» Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un à l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Voyez là, Jésus-Christ est en train de parler de cette parabole. Et n'oubliez pas que nous sommes dans le texte de Matthieu, le livre, l'évangile de Matthieu. Alors, il y a beaucoup de choses à dire en théologie sur l'évangile de Matthieu. Mais retenez très bien que Matthieu se concentre beaucoup plus sur l'enseignement de Jésus, sur les dires de Jésus. C'est les arguments de Jésus. Jésus est un orateur dans les livres de Matthieu. Luc, lui, vient avec cet équilibre parce qu'il veut démontrer ce que Jésus disait et faisait. Jésus de Matthieu, c'est Jésus l'enseignant. C'est celui qui s'étale dans ce qu'il est en train de dire. Il veut qu'on retienne ce qu'il a dit. Et la deuxième des choses, ou pour aujourd'hui en fait, on est déjà à la sixième des choses, qu'il faut apprendre, c'est lorsque vous voulez absolument interpréter une parabole, c'est que assurez-vous que l'interprétation ne contredit pas la saine doctrine enseignée dans d'autres parties de l'Écriture. Ce que vous êtes en train d'interpréter là sur cette parabole ne peut pas aller à l'encontre des mêmes vérités enseignées par la même personne dans un autre contexte et ça devient contradictoire. Non. C'est même pas question de paradoxe ici, mais ça devient contradictoire. Vous ne pouvez pas, une parabole ne peut pas vous dire le contraire des choses que Jésus a dit pleinement sans parabole. Alors, revenons un peu dans cette parabole que je venais de vous lire ici. Cette parabole est en train de parler de la semence. Le semeur, le propriétaire a semé dans son champ, livré. Et puis, il y a un ennemi qui vient la nuit et qui sème. Non, le propriétaire a semé le blé, l'ennemi vient semer livré après. Si vous regardez l'image de ces deux choses, vous voyez combien ça se ressemble. Et c'est après, quand ça commençait à monter et ça commençait à germer, qu'on se rend compte que, oh, il dit, les serviteurs viennent lui demander, mais tu n'as pas semé le blé, soit, mais d'où vient livré? Et lui, il savait, le propriétaire, il dit, non, je sais, c'est un ennemi qui a fait ça. Alors les serviteurs disent, est-ce que tu veux qu'on ait arraché l'ivraie? Il dit, non, laissez-le. Laissez-les croître ensemble, et quand ils grandiront, alors on pourra le couper. Regardez, il dit, quand vous regardez ce texte n'est pas en train de dire que, en réalité, vous devez... J'ai entendu des gens interpréter dire, le Seigneur lui-même a dit, laissez les blés et l'ivraie grandir ensemble dans l'église. Attention. Les blés et l'ivraie ici, qui grandissent ensemble, que l'Éternel a permis de grandir, c'est d'abord dans le monde. Le Seigneur lui a semé dans le monde les siens et l'ennemi les siens aussi. Ce texte n'est pas là pour encourager les gens à vivre une mauvaise vie dans l'Église et nous rendre, nous, les frères et sœurs de l'Église, juste passifs par rapport à leur vie et se dire, non, on peut rien dire, laissez-les grandir comme ça. Dieu a dit, bon, la Bible a dit, hein, laissez-les tous grandir. Non, c'est pas ça. Quand vous lisez les autres textes bibliques où Jésus-Christ parle de la discipline ecclésiastique et les apôtres vont parler de ça plus tard, il dit quand vous vous rendrez compte que la Bible nous donne le droit de réprimer ce qui marche mal. Et même Paul va jusqu'à un niveau, il dit, Je ne veux pas que tu aies des relations avec de telles personnes. Celles qui se disent être frères, enfants de Dieu, mais qui continuent à vivre une mauvaise vie. Il dit, ne leur parle même pas. Vous voyez, ce texte ici, si vous allez là-bas pour l'interpréter en disant ce que Jésus voulait dire, laissez tout le monde être tel qu'il est dans l'Église, celui qui est dans le péché, qu'il soit dans le péché, celui qui est dans la sanctification, qu'il soit dans la sanctification. Dans tout le cas, c'est le dernier jour que Dieu va les séparer. Vous, les êtres humains, vous n'avez rien à dire. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ce que ce texte veut dire. Parce que cette interprétation-là contredit la vérité de la doctrine et de l'Évangile. La Bible, elle reconnaît que dans l'Église, il doit y avoir une discipline. Dans l'Église du Seigneur, quand quelqu'un marche dans la mauvaise voie, il faudra le réprimer. Le réprimander, le corriger. Et même Paul va jusqu'à dire de se séparer de telles personnes qui continuent à nous faire croire qu'ils sont avec nous pendant qu'ils ne le sont pas. Donc, il est important, chers amis, de vous assurer que l'interprétation que vous êtes en train de donner à ce texte-là ne contredit pas une autre partie, ne contredit pas la vérité de l'Évangile. Alors, troisième, dernière, aujourd'hui, quand vous voulez interpréter une parabole, les amis, il est important que vous puissiez savoir qu'il ne faut pas essayer de donner un sens à chaque détail de la parabole. Ne donnez pas de sens à chaque détail de la parabole. Lorsque l'interprétation, on appelle ça le courant de l'interprétation allégorique, les principes d'interprétation de la Bible, l'interprétation aussi des paraboles en particulier. Dans les différents courants de l'herméneutique, il y a cette herméneutique alexandrine du côté où on appelait ça l'interprétation allégorique, où la plupart des gens ont commencé à tout allégoriser, c'est-à-dire ils ont commencé à regarder la Bible et la lire directement comme des symboles, comme des signes. C'est-à-dire, quand ils lisent Genèse dit « il y avait quatre fleuves dans le jardin, l'un s'appelait Euphrate. Pour eux, ces quatre fleuves-là sont quatre bras. L'un dit, les quatre fleuves sont les quatre évangiles. Donc, ils voient dans les quatre fleuves les quatre évangiles. Ils voient dans chaque chiffre quatre. Pour lui, c'est ça, quatre évangiles. Je me souviens un peu. Quand on était encore enfant et qu'on se rendait à l'Église catholique, on nous enseignait beaucoup une belle chanson, une petite chanson qui nous permettait de nous souvenir de la doctrine. Moi, franchement, j'admire cette méthode-là. Elle était fantastique. C'est une méthode aussi que les Juifs utilisent ou ont utilisé aussi même dans la Bible pour retenir les vérités. Je ne sais pas si vous avez appris ça, mais moi, j'ai appris ça à l'école. Ça va peut-être vous rafraîchir la mémoire. On chantait comme ça. Savez-vous ce qu'il y a un? Nous savons ce qu'il y a un. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a deux testaments, l'ancien et les nouveaux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Nous allions comme ça, juste. Et à chaque chiffre, on expliquait en fait l'essence d'une doctrine, d'une vérité. Eh bien, pourquoi je fais mention de ça? Parce qu'on dirait que les gens qui font la mauvaise interprétation allégorique considèrent qu'un chiffre ne signifie qu'une seule chose. Un fait ne signifie qu'une seule chose. Donc, savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangélistes. Donc, tous les quatre dans la Bible sont des évangiles. Je ne dis pas que le cantique que je viens de vous citer voulait dire que ça et que ça, ça venait du courant allégorique. Je voulais juste vous rafraîchir la mémoire. Mais n'essayez pas, lorsque vous êtes en train d'interpréter un texte des paraboles, donner signification à tout. Restons un peu... Je vais revenir sur une autre parabole, sur un texte qu'on a lu... Avant, vous dérangez pas, je veux juste rafraîchir la mémoire de nous tous. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 3 à 9, il dit, « Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Alors, Vous voyez, quand Jésus va interpréter, okay, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le matin vient, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Il avait dit les oiseaux, au pluriel. Je ne sais pas si vous avez suivi. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Il n'a pas dit l'oiseau. Au moment d'interpréter, au lieu de dire les démons vinrent, Jésus a juste cité une seule personne responsable, le malin. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir comment l'interprétation de la parabole ne va pas dans de petits détails. Jésus aurait pu dire, les oiseaux, comme vous le voyez, sont au pluriel, il s'agit des esprits mauvais derrière. Non, Jésus dit, les oiseaux là, c'est une catégorie en fait. Il ne faut pas avoir le nombre, c'est la catégorie oiseau. Quoi, catégorie oiseau signifie en réalité le malin. Revenons encore. Comme il sémait une partie de la semence, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle l'éva aussitôt parce qu'elle se trouvait, elle ne trouvait pas un sol. Regardez, Jésus interprète. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur, la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Regardez, Jésus compare tomber. Le fait que la sémence tombe à ce sol-là, il dit que la parole est envoyée, la terre comme elle reçoit, donc cette personne a reçu la parole. On ne veut pas beaucoup nous parler de ce que le semeur a fait. On veut plus nous parler de comment les terres ont reçu. Vous voyez, Jésus, quand il interprète sa parabole, il ne dit pas la deuxième terre, c'est ceux à qui le prédicateur est allé prêcher, mais ils étaient distraits. Non, il ne parle plus. Quand il interprète, il ne met plus l'emphase sur le semeur. Parce que son but, c'était de placer le tableau du semeur et de la sémence afin de nous expliquer les types de terres. Quand Jésus interprète sa parabole, il insiste sur les gens des terres qui reçoivent plutôt que sur la manière dont les semeurs a sémé. Parce que, soit dit en passant, il ne dit pas avec particularité si le semeur sème. Il préfère utiliser les termes tomba, la sémence tomba, la sémence tomba. C'est pour montrer que le travail du semeur a juste lâché, libéré. La responsabilité est au niveau de ceux qui reçoivent. A-t-il prêché cela un matin, une campagne d'évangélisation, c'était sur Internet. Est-ce qu'il a vraiment fait asseoir, il a eu? Non, il dit, la responsabilité se trouve maintenant à partir du moment où la terre a pu recevoir. Donc, percevoir, entendre la parole, quel que soit comment on l'a reçu, ça peut peut-être être tombé. La responsabilité commence au niveau de la terre qui reçoit. Il dit, c'est la terre qui reçoit. Il dit, alors je vais lire pour vous, celui qui a reçu la semence, dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Où est-ce que vous avez vu joie tout à l'heure quand il expliquait? Quand il disait la parabole, il a dit, une partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle éva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol. Mais regarde, Jésus ressort même la joie maintenant. Il dit, c'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de résistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Voyez très bien comment Jésus le fait. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'était la troisième passée, n'essayez pas d'aller dans les détails de chaque chose. Sinon, vous serez en train de vous dire le fait de tomber. Pourquoi il n'a pas lui-même posé, il n'a pas fait. Plutôt, lui, c'est seulement tombé. Ça veut dire que cette parole n'a pas été bien administrée. c'est tombé, on l'a pas posé. Donc, il y a un problème, les semeurs n'avaient même pas l'intention de s'aimer là-bas, c'est juste tombé. Non, c'est pas ça le but de Jésus. Le but de Jésus, c'est de démontrer que la semence est arrivée à ce sol, c'est le sol qui reçoit. Le problème, c'est la même semence, tombée ou donnée, le long de la route ou sur une bonne terre, la parole ne fait que tomber. C'est pour démontrer que la responsabilité du semeur ici, c'est de juste répandre. Personne ne dira qu'on n'a plus plus de temps avec moi, on en a plus moins. La responsabilité arrive au niveau de la terre. Il y a une terre, les oiseaux viennent. Une terre remplie de pierres. Une autre terre remplie d'épines. Et puis une bonne terre. La première terre, souvenez-vous, Jésus dit, les oiseaux viennent et prennent. Pourquoi? Parce que lorsque la semence tombe, Jésus appelle ça recevoir ou écouter la parole. Jésus démontre qu'il existe ici des gens qui, après avoir écouté, ce n'est pas entré. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu ne sont pas nécessairement des bonnes terres. Et quand les chrétiens lisent ce texte ici, ils le mettent tout de suite dans l'idée où moi j'étais la bonne terre, c'est pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu, qui produisent des fruits, ce sont eux qui sont devenus chrétiens. Et donc, c'était ça l'intention de Jésus. Non, 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 non. Le but de cette parabole, ce n'est pas de montrer que seulement les gens ont reçu l'évangile du royaume dans le sens de la conversion. Non. Il s'agit dans le sens de toutes les vérités de l'évangile. Quelqu'un peut avoir reçu le Seigneur Jésus, vivre dans la foi à l'Église, venu enfant de Dieu, assis là en train d'écouter, mais au moment où il écoute cette vérité, qu'il parle d'un aspect important, par exemple du retour de Jésus-Christ, par exemple de la consécration personnelle, mais il laisse le diable. Le diable vient, il vole. Une parole claire peut être annoncée à quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus, mais qui vit selon la chair. Les besoins de manger, boire, de bien s'habiller, de paraître, ces besoins-là ont commencé à pourrir son cœur. La Bible dit que ça ne trouve pas racine, il manque de racines. Les épines montent, les soucis montent dans son cœur. Quelqu'un, un enfant de Dieu qui vient à l'église, qui a déjà cru au Seigneur Jésus, qui pour le message de l'évangile a été une bonne terre, mais après quand on vient le prêcher, le fait d'attendre le secours du Seigneur, les soucis du cœur montent comme des épines, et étouffe cette vérité-là. Alors, j'espère que cet exercice vous pousse et nous aide tous à comprendre et à élargir notre compréhension de ce qu'on appelle des paraboles. Aujourd'hui, j'ai enseigné quoi? J'ai enseigné trois principes qui s'ajoutent aux quatre premiers qu'on a enseignés hier. On parle de quoi? On parle de principes qui vous aident à interpréter ou à comprendre les paraboles. J'ai dit aujourd'hui qu'il faut identifier les buts du livre dans un sens plus large du contexte. Ne soyez pas seulement dans le contexte immédiat ou culturel, voyez le livre lui-même. Quel est le but? Je vous ai donné l'exemple du livre de Jean où le but de Jean, c'est de démontrer aux gens que Christ est réellement le Messie. J'ai aussi dit quelle autre chose à faire, c'est que vous puissiez vous assurer que l'interprétation, la compréhension de cette parabole ne contredit pas les autres vérités de l'Évangile. Je donnais un exemple ici. Quand Christ est dit « laissez-les grandir ensemble », il parle de laisser les grandir ensemble dans le monde. Il n'est pas en train de dire « tolérer une vie de péché comme ça dans l'Église, laissez-les grandir ensemble, dans tous les cas, moi-même, je viendrai. Ne condamnez pas moi, je viendrai. » Non, non. La Bible, elle dit qu'on devrait être, on devrait amener la discipline. On devrait dénoncer ces comportements dans l'Assemblée du Seigneur. Mais en ce qui se passe dans le monde, la réalité est que quand il viendra, il va très bien lui-même différencier ces gens-là. Mais en fin de compte, je vous ai aussi dit que n'essayez pas d'interpréter chaque détail, pardon, s'il vous plaît. J'ai fait une démonstration de comment Jésus est en train lui-même d'interpréter ses propres paraboles, de fois en étant général, en étant compartimenté. Il y a les oiseaux au pluriel et Jésus interprète ça par le malin, seul, au singulier. Alors, n'allez pas dans certains détails inutiles. Et je vous l'avais fait rire en vous le disant hier que quelqu'un m'a dit un jour, j'aimerais comprendre le mystère derrière le petit sac qu'avait le semeur de la parabole de Jésus. Le sac dans lequel il avait mis la semence. Quel est le mystère caché? Oh, n'allez pas chercher des mystères jusqu'à ce point-là. Restez dans ce qui est simple. La parabole, c'est une histoire et les faits sont réels. Donc, au moment de parler de ces faits, quand je dis réel, dans la réalité, l'auteur doit établir la mise en place de la réalité quotidienne. Mais ces leçons se trouvent que dans quelques séquences seulement. Il raconte les choses telles qu'elles sont dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas chaque petit détail qui doit être interprété. C'est pour cette raison que les gens ont même de fois du mal à interpréter aussi leurs songes. Parce que de fois, les songes sont des paraboles nocturnes. Il a reçu un songe et il reste dans le petit détail. Quand je m'étais tourné, pourquoi j'avais pris la droite? Le but n'était pas la droite. Le but, c'était où tu allais de fois. De fois, les gens ont du mal à interpréter certains de leurs songes parce qu'ils sont perdus. Devenez bon en interprète des paraboles, vous deviendrez aussi bon en interprète de vos songes. Donc, demain, on va se concentrer à apprendre ensemble la signification d'une parabole en particulier, justement, comme j'ai déjà commencé à l'aborder. Ça me permettra de faire des rappels, parce que c'est un peu technique, ça demande un peu de réflexion. Je vais revenir. On va revenir jusqu'à ce qu'on les dit sous une autre forme, les mêmes choses, de sorte qu'on fasse un 360 degrés de cette affaire des paraboles. Entre-temps, je vous laisse. Vraiment, continuez bien votre journée. Avec moi, on se voit juste demain et continuez la parole de Dieu. Alors, let's teach. Grandissons ensemble.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.